Deuxième partie du podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 21, le réseau Hampstead-Westminster. Donc, dans la première partie, on a parlé de l'ensemble de l'affaire de manière relativement synthétique, donc ça soit au niveau des enfants de Hampstead, ou au niveau de, donc avec ce réseau, au niveau de Lord Janner, qui avait également des relations avec ce réseau, et également du réseau Westminster. Là, la deuxième partie va uniquement se focaliser sur les auditions des enfants de Hampstead, donc les retranscriptions. Vous pouvez visionner les vidéos de ces, en partie en tout cas, de ces auditions à la police, ou d'autres vidéos où les enfants racontent la même chose. Mais là, on va vraiment se focaliser sur ce qui a été dit lors des auditions à la police pour vous rendre compte à quel point l'enquête n'en tient pas compte, entre guillemets. Allons-y. Donc, les transcriptions d'audition à la police sont aussi publiées. Il y en a trois au total, les 5, 11 et 17 septembre, audition au cours de laquelle les deux enfants se rétractent. Lors de l'audition du 5 septembre, les enfants sont seuls face à deux policiers, sans personne des services sociaux et sans psy. L'une d'elles, donc, est l'audition de la fille, 9 ans, par la police de Hampstead. L'audition est plutôt surréaliste. On dirait que le flic fait tout pour éviter le sujet des viols commis à l'école par le père et d'autres personnes, des meurtres et autres délires rituels. Les enfants semblent méfiants, et comme ils l'ont dit, ils savent que des policiers et des gens des services sociaux font partie du même réseau que leur père. Dès le début de l'audition, elle mentionne Jean Clément, Jean Clement, qui est policier. Elle précise qu'il travaille dans le sud de Londres et qu'il est sergent. Alors que sa mère a la garde d'elle et son frère, elle explique qu'elle voit son père quasiment tous les jours parce qu'il vient à l'école. On commence les citations. Le flic demande pourquoi il fait du sexe avec nous et il tue des bébés là-bas. Bien. Donc là, la petite fille répond donc. On mange des bébés, on boit leur sang. Ok. Parce que c'est comme ça qu'on fait, comme les mercredis. Le mercredi est le jour le plus spécial, le plus chargé. Spécial. Bien, ok. On va prendre cela petit bout par petit bout. Donc tu as dit que ton père vient à l'école tous les jours? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vient à ton école tous les jours? Il vient n'importe quand. Quand nous sommes à l'école, le samedi, il vient et on le voit là. Où est-ce qu'il vient vous voir? À mon école, la Christchurch Primary School. Ok. La petite raconte qu'après que leur mère et les autres parents les aient amenés à l'école, M. Maurice, le surveillant, fait le tour de l'école pour voir s'il ne reste pas des parents dans le secteur. Et après, ils appellent mon père et disent que tout est ok, que maman n'est plus là. Comment sais-tu cela? Parce que je les ai entendus parler à mon père. C'est exactement la voix de mon père. Exactement. Où étais-tu quand tu as entendu cela? Dans la pièce des employés, la staff room. Pourquoi étais-tu dans la pièce des employés? Parce que c'est là qu'ils me font du sexe. C'est là que ça se passe. À un moment, le flic lui demande pourquoi elle ne va pas en classe. Réponse, on va aussi parfois en classe, oui. Donc il dit, ok, tu vas en classe? Oui. Ok, et que se passe-t-il quand tu vas en classe? Donc, et après, ils font ça. Dans ma classe, il y a cette petite porte dans le fond, juste dans le fond de la classe, ils ont une petite porte et il y a une minuscule pièce. C'est ça le truc, il y a des bonbons, des prix, spécialement pour payer les enfants avec des bonbons pour faire du sexe avec eux. Bien. Oui, et alors ils donnent des bonbons autant qu'ils veulent. D'accord. Donc, ils nous donnent des bonbons jusqu'à ce qu'ils soient contents, jusqu'à ce que ça soit fait. Parce que pendant qu'ils mangent des bonbons, ils leur font du sexe. Donc, ils les paient en bonbons, et après, ils leur font ce qu'ils veulent. Ok. Parce qu'ils veulent, c'est parce que tous les enfants... Quels enfants? Oui, il y en a plein. Il y a des enfants de notre école. 200 enfants dans notre école, et ils ne sont pas tous pareils. Il y a 20 enfants spéciaux. Qui sont ces 20 enfants? Cite Millie Cowell, le flic enchaîne. Donc elle cite Millie Cowell parmi ses 20 enfants. Comment sais-tu qu'elle fait partie des 20 enfants spéciaux? Parce qu'elle l'est, parce que je le sais, parce qu'elle vient. Ils lui font du sexe, le plus à elle. Qui sont-ils? Les enseignants, les parents, les employés de l'école. Chacun des enseignants ou des enseignants spécifiques? Non, chacun des enseignants. Toute l'école fait cela, toute l'école. On a notre propre église. Ok. On a parce qu'ils font des danses. Parce qu'après... Comme j'ai dit, on tue des enfants, on boit leur sang, on les mange, et après aussi, les services sociaux sont dedans. Et ils disent qu'ils vont dans les familles, et les familles n'ont pas les moyens. Ils ont un bébé, mais ils ne peuvent pas s'en occuper. Ils ne peuvent pas acheter à manger, ou ils ne peuvent pas acheter des vêtements. Ils ne peuvent pas s'en occuper, alors ils les vendent, et les familles qui vendent leurs enfants. D'accord. Et les services sociaux les récupèrent. Ils disent qu'ils les ont dans des orphelinats, mais c'est faux. Ils récupèrent les bébés et les enfants, et ils les mettent, ils les donnent à Miss Marden, l'infirmière de l'école. Elle fait une injection au bébé ou à l'enfant dans le cou, juste là. Bien, ok, et comment sais-tu cela? Ben parce que je l'ai vu faire. Comment tu l'as vu faire ça? parce que je l'ai vue dans la salle des employés, elle était en train de le faire. Donc il y a cette injection et elle l'a fait, et le bébé était juste là, juste posé sur la table. Bien. Et elle était juste en train de rire. Et après qu'elle a fait l'injection, c'était comme s'il s'endormait doucement. Vous savez, un bruit sourd. Pas comme s'il tombait juste, on dirait qu'il bougeait lentement, comme ça. Bien. Oui. Ok. Et après, le bébé dort. Oui. Et après, que se passait-il? Et après qu'il lui a fait ça, ils prennent le bébé, ils le pendent à l'envers. Et comment font-ils ça? Mais avec des cordes. De où? Bah, au mur. Parce qu'il y a des petites vis. Il y a des vis où ils mettent la corde. C'est comme un truc rond, pendu à l'envers. Ils ont un truc spécial. Le couteau qu'ils utilisent pour couper la tête des bébés. Mais vous savez, c'est un très très gros couteau, comme les gros couteaux des Chinois. D'accord. Avec quoi on coupe des noix de coco et ce genre de truc? Bien. Des machettes, c'est ça? Oui. La petite ne se démonte pas et continue son récit en évoquant son père qui les force, elle et son frère, à faire ces choses. On continue les citations. Parce qu'on ne peut pas, on n'est pas assez fort pour couper la tête des bébés. Parce qu'il nous apprend, il nous enseigne à moi et à mon frère pour que quand on sera grand, on fasse ça à nos propres enfants et qu'on fasse tous ces trucs avec nos enfants. Et où cela a lieu? À l'église, dans la cuisine de notre église. La cuisine dans l'église? Oui, ils ont ça. Ok, bien. Et cette corde, parle-moi de cette corde. Ça y ressemble, vous savez, c'est juste une petite corde normale. Ok. Et ils sont attachés autour. Ok. Dans un cercle. Bien. Pendu au... Et où est-ce qu'ils attachent le bébé? Comme ça, par les jambes. Ils attachent les jambes ensemble, les lient avec une corde autour et une corde attachée. D'accord. Et ils sont pendus à l'envers. Ils sont... le couteau, il ne le coupe pas entièrement, c'est toujours attaché. C'est comme si la tête était partie, mais elle pend encore. Donc, ok. Oui, et il y a une sorte de boule blanche sur le sol, et le sang coule dedans, et après ils le mettent dans un grand gobelet en argent. Et donc, où est cette boule blanche? Où est-ce qu'ils l'ont récupérée? Bah, ils sont venus avec la boule blanche. Bah, de où? Bah, d'un magasin. Et où? Où ont-ils cette boule? Où ont-ils trouvé cette boule? D'un magasin, d'un magasin. Donc, tu les as pas vus obtenir la boule? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quel magasin, mais je pense qu'ils allaient. Comment ils appellent ça déjà? Près de Brain Cross? C'est près de Brain Cross. Où est-ce qu'ils la gardent? Bah dans le placard. Dans quel placard? Bah, c'est comme un placard normal. Comme un placard. Comment? Bah, comme un placard de cuisine. Bien, ok. Et il est où ce placard de cuisine? Bah, il y a une cuisine à l'église et à l'école. Il explique ensuite au flic comment il peut trouver ce placard. Puis elle tente de revenir sur les meurtres de bébés que leur père les oblige à commettre. Mais le flic ne réagit toujours pas. Elle explique. Tu fais un mouvement et tu coupes la tête du bébé. Mais tu t'arrêtes tout de suite, tu fais comme ça. Et tu laisses un peu d'espace, donc c'est encore sur la tête. Et le sang coule juste dans la boule. C'est comme ça qu'on leur fait couler le sang. Ok, donc tu fais cela. Est-ce que le sang va partout? Non, 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 on ne fait pas ça. Je veux dire qu'on ne fait pas ça. On ne le fait pas autant. On fait comme ça, pas trop vite, à une vitesse moyenne. On fait comme ça. On est sûr qu'il n'y aura pas de sang à gicler partout. Ils s'assurent que tout est propre, le plus propre qu'ils peuvent. D'accord. Parce qu'ils nettoient après aussi. Donc vous nettoyez? Non, non, il y a du sang au sol, ou quelque chose comme ça, ils nettoient. S'il y a du sang au sol. Ok, oui. Donc il y a du sang dans la boule et après ils le mettent dans un gobelet en argent. Et où ont-ils trouvé ce gobelet? Bah, je sais pas, quel magasin. À un moment, le flic lui demande ce que font les employés de l'école pendant que ces rituels ont lieu dans le réfectoire de l'école. Réponse, au lieu de faire leur pas des enfants, ils donnent des bébés aux enfants. Je cite, ils donnent des bébés aux enfants. Oui, ils les donnent, ils font ça, je veux dire, ils font des spaghettis bolognaises, ils vont mettre un peu de viande de bébé tout le temps. Et comment mettent-ils de la viande de bébé dans la spaghettis bolognaise? Je ne comprends pas. Parce qu'ils les découpent, la maîtresse principale, Miss Fordyke, elle coupe les bébés. Et que font-ils avec les os et tout ça? Oui, ils gardent les os. Fin de citation. Elle explique qu'ils gardent les os pour en faire des choses, par exemple des statues dans l'église. Ils les sculptent dans un atelier de sculpture près du Swiss Cottage. Un certain Max et un certain Félix sont cités comme étant chargés de cette opération et seraient des pros en la matière. Elle explique que les adultes dansent au milieu des os dans l'église. Elle dit que les enseignants et les employés de l'école possèdent chacun une vingtaine d'os. Elle le sait parce qu'une fois, elle les a comptés dans une pièce secrète de l'église. Elle dit aux flics qu'il peut être difficile de retrouver ces os parce qu'ils les bougent régulièrement, chez eux notamment parce qu'ils y organisent des fêtes. La fillette cite Madame Hollings, qui a une Porsche garée devant chez lui et qui possède des os. Elle décrit très précisément la maison où elle est allée plusieurs fois, ainsi que l'agencement des pièces et le mobilier. Là aussi, il y a une pièce secrète pleine de placards, où il se fait également des abus sexuels. Je cite. Comment sais-tu qu'ils y font du sexe? Parce qu'ils m'y ont mise pour faire du sexe. Qui t'a amené là? Ben, mon papa et Monsieur Holdings, ils m'ont prise là. Pardon, qui? Ben, mon père. Le flic demande ce que c'est que faire du sexe. Réponse: ben, ils ont des zizi en plastique, ils achètent des zizi en plastique. Bien, ok. Ah oui. Et après, ils les mettent et ils les attachent, mais ils sont sûrs que ça fait mal. Ils veulent des zizi en plastique, ils ne veulent pas utiliser leur vrai zizi. Et pourquoi pas? Parce que ça ne fait pas mal, ils veulent être sûrs que ça fait mal. Donc, ok, qui sont-ils? Il y a papa et qui d'autre? Monsieur Hollings, la maîtresse principale, tous les enseignants. Ok, donc papa, Monsieur Hollings, la maîtresse principale. Oui, Miss Marden, Monsieur Felloni, Monsieur Georges. Donc, qui faisait cela quand tu allais dans cette maison? Qui était là? Bah, tout le personnel. Tout le personnel. Tous les parents, vous savez, les parents de tous les enfants. Ils savent tous pour ça, ils le font. Ok, et tu as été là-bas? Qui utilisait les zizi en plastique? Mais tous, tous. Tous? Et où gardent-ils les zizi en plastique? Ben, ils les gardent dans des placards. Elle explique aussi que les membres du groupe ne leur font pas confiance à elle et son frère, et qu'il ne faut jamais parler de tout cela. Elle dit aussi que chaque jour, ils la vendent, elle et son frère, pour 50 livres sterling à ceux qui ne peuvent pas venir les violer à l'école. Elle cite: alors, ils me gardent, moi et mon frère, pour leur faire du sexe. Ils ont leur équipement, ils ont leurs zizi en plastique et ils font ça. Des fois pendant 2 heures, des fois une, pendant les heures d'école. Le flic redemande ce que c'est que le sexe. Ils se touchent les parties privées, ils ont aussi des gros zizi en plastique et un autre en bois. Pour elle, ce n'est vraiment pas du sexe. C'est comme ça qu'ils nous font mal. Mais le vrai sexe, c'est avec des zizi en plastique. Ils les mettent dans nos fesses et c'est ce genre de sexe qu'ils font. Pour les filles, ils les utilisent aussi devant. S'ils se plaignent ou disent qu'ils ont mal, les enfants prennent des coups de cuillère sur la tête. Je cite: c'est pour ça quand on rentre chez maman, on a toujours des coups à la tête. Fin de citation. Chez leur père, il y a une armoire qui dissimule un passage secret, qui donne sur une porte cachée dans le mur de briques, avec derrière un escalier qui descend jusqu'à un couloir. De ce couloir, un autre couloir mène à une pièce secrète. Le flic lui demande de citer des camarades qui eux aussi ont été victimes, et elle donne les noms de 4 ou 5 copines avant de dire: mais il y a plein d'enfants, plein. Elle dit que plein d'enfants de plein d'écoles de la ville qu'elle nomme ou décrit sont déjà aussi dans le système. Ensuite, c'est son frère qui a entendu. Il explique qu'il a un problème à l'école parce que son père est ami avec toute l'école. Je cite. Il raconte comment chacune de leurs instits est devenue amie avec leur père et qu'ensuite elles ont introduit des collègues. Il cite les mêmes noms que sa sœur, notamment Monsieur Hollings, qui est aussi un instit et un grand ami de son père. C'est celui qui gare sa Porsche devant sa grande villa. Allons-y pour l'audition du garçon. Quand est-ce que ton père t'a dit cela? Quand il avait du sexe avec moi. Et qu'est-ce que cela veut dire, le sexe? Qu'est-ce que tu veux dire? Il me touche les parties intimes, et il me touche les parties intimes, et il me plante un zizi en plastique. D'accord. Dans mon derrière. Et après, ça saigne. Ok. Oui. Ok. Ton père fait du sexe avec toi, et cela signifie qu'il te touche les parties intimes. Oui. Qu'il met un zizi en plastique, dans mon derrière, dans ton derrière. Un gros énorme. Ok. Mais comment tu sais que c'est un zizi en plastique? Bah, je le vois avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je vois le zizi, il me le montre, il me le laisse voir, le zizi en plastique. Ok, donc dis-moi un peu à quoi ressemble ce zizi. Bah, ça ressemble à un vrai, mais c'est en plastique. Fin de citation. Apparemment, il les range toujours dans le même ordre. Le marron tout en bas, puis un doré, puis un blanc. Le flic demande combien ils en ont. Réponse: des millions, il les achète, ils en fabriquent aussi, il les fait dans son abri de jardin, ils font le plastique et il les fait. Comment tu sais cela? Je les ai vus faire avant. Et il a un ami qui s'appelle Daniel et ils font ça. Fin de citation. Au sujet de ces objets, le garçon explique que c'est très grand et gros et que ça fait très mal et que souvent ça le fait saigner et que c'est son père qui a le plus gros de couleur noire. Fin de citation. Donc, recitation. La dernière fois que c'est arrivé, c'était le dernier jour d'école, explique le gamin. On avait une grande fête au dernier jour d'école et mon père va à l'école. En fait, mon père, il ne me laisse rien apprendre, il ne me laisse pas avoir une éducation. Donc tu es à l'école, il y a une grande fête. Oui. Qui donc est à cette fête? Bah, Monsieur Hollings, l'enseignant des 4e année. Fin de citation. Puis il énumère un certain nombre d'enseignants et explique que la maîtresse principale lui a mis un zizi dans les fesses et que tous les enfants présents à la fête lui ont fait du sexe. Je cite. Et tu sais combien d'enfants il y a dans mon école? 200, 300 enfants. Et tous ces enfants ont du sexe avec toi? Oui, et d'autres écoles sont impliquées. Fin de citation. Quelques minutes plus tard, le flic revient sur la fête et demande ce qui s'est passé à la fin. Citation. Ben, mon père, il tue des bébés et il mange la viande. Ok, eh bien, parle-moi du genre de cette fête. Oui. Ok, donc la fête, elle ressemblait à quoi? Je n'aimais pas cette fête. Pourquoi? Bah, ils m'ont touché. Qui? Ils m'ont frappé, mais parti de devant, ils m'ont fait mal. Et quand ils mettent un gros zizi en plastique dans mon derrière, et quand ça saigne, si je pleure, vous savez, des cuillères en spaghettis, comme celles en métal, et si je pleure, ils me frappent à la tête avec ça. Ok, et si je pleure encore, ils me frappent encore, mais si je pleure encore plus, là, l'infirmière, Miss Marden, elle me fait une injection et je dors. Et l'injection dans mon cou et je m'endors directement. Fin de citation. À cette fête, le garçon dit que son père, les enseignants, deux amis à eux, des parents d'élèves, lui ont fait du mal. Le flic lui demande pourquoi les gens lui font ça, mais le gamin ne sait pas. Il dit que lui n'a rien fait. Mais il ajoute, mon père a construit une religion étrange, très étrange. Il propose de donner les noms des parents et des enfants présents, mais le flic préfère savoir pourquoi sa mère n'était pas à la fête. Réponse, parce qu'elle ne nous touche pas, elle ne nous fait pas de sexe. Pourquoi elle n'était pas là, répète le flic. Parce qu'elle ne nous fait pas de sexe, répète le petit. Je sais qu'elle ne fait pas de sexe avec vous, mais elle est super bien. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller à la fête, hein? Non, il n'y a pas de raison. C'est juste qu'elle est végane et la fête était non végane. Il explique que la fête a duré une partie de la journée et que, au lieu d'avoir classe, au lieu d'avoir anglais, au lieu d'avoir science, on a eu du sexe. Et la fête, et on a mangé des bébés. Fin de citation. Puis tout le monde a dansé et ça a été la partouze. Le flic demande ce qu'est le sexe au garçon. Il précise, ils me touchent les parties intimes, ils me disent de leur lécher les parties intimes. Fin de citation. Après la fête, leur père les a ramenés chez leur mère et ils n'ont rien dit car ils étaient menacés et effrayés de parler. Il ajoute que son père est, entre guillemets, le chef de toute la religion, de tout le culte, il est comme le chef. Fin de citation. Cette religion n'a pas de nom, selon le garçon. Le truc, ce serait juste, d'après son analyse de gamin de 8 ans, de manger des bébés et de les tuer. Je cite, mon père tue des bébés et on l'aide à les tuer, mais notre père nous force à le faire. Fin de citation. Les auditions sont très longues et parfois les enfants sont laissés seuls de longues minutes alors qu'ils viennent d'évoquer les pires horreurs. Lors de cette première audition, le garçon est laissé plus de 20 minutes tout seul en plein milieu de l'audition et commence à paniquer avant de se mettre à pleurer. Maintenant, on attaque l'audition du 11 septembre. Donc, on est avec l'audition cette fois de la petite fille. D'emblée dans cette interview, le flic précise que la fille peut profiter que sa mère n'est pas là pour parler sans risque de la vexer ou de l'énerver. Il vérifie bien qu'elle connaît la différence entre le mensonge et la vérité et revient sur l'église où se déroulent les rituels. Il décrit en détail les couloirs, les sous-sols, les passages et pièces secrètes de l'église qui est juste à côté de leur école. Il y a notamment la salle des rituels avec une grande table au milieu, une crèche et une autre pièce avec des ossements. Dans la deuxième partie de l'audition, le flic passe de longues minutes à faire détailler le régime alimentaire qu'ils ont à la maison. Elle explique que tout est vegan et que souvent ils aimeraient manger des bonbons. Puis, il explique que depuis 3 ans, elle fait de la méditation, mais sa mère n'aime pas cela depuis qu'elle a appris qu'ils avaient du sexe et mangeaient des bébés. Elle raconte aussi que leur père leur a appris à voler, si bien qu'il prenait de l'argent dans le portefeuille de sa mère pour acheter des bonbons ou parfois donner de l'argent à son père. Là, le flic revient immédiatement sur le compagnon de leur mère, Abraham, pour lui demander comment il est. Et la gamine dit, il est sympa, mais quand on lui a parlé du Maroc, on avait peur de parler, alors on a un peu menti. On a beaucoup menti même. Fin de citation. Elle précise qu'ils ont seulement accusé leur père et n'ont pas du tout osé parler des meurtres de bébés ou du reste. Elle raconte qu'ils ont dit à Abraham que le seul moyen pour qu'il parle était de les frapper, donc il l'a fait un petit peu avec une cuillère comme leur père. Elle précise qu'il ne l'a fait qu'une seule fois. Par contre, elle ajoute que son père les frappe très fort jusqu'à les faire saigner. Mais là, le flic ne lui pose aucune question, évidemment. Il n'a semblé intéressé que par les maltraitances éventuelles du beau-père, appelé Papa Herbe, car il fume et cultive du cannabis. Le père ne l'intéresse pas. Mais la gamine a envie de parler et précise les violences qu'il leur fait devant un flic qui fait OK, oui, d'accord. Au cours de cette audition, elle décrit une église dans laquelle des rituels ont eu lieu et où des ossements d'enfants, de bébés sont conservés selon elle. Elle raconte aussi qu'elle a vu son père manquer de tuer sa mère lors d'une crise de violence, si bien qu'il a fallu appeler la police, arriver sur place en 15 minutes. Mais le père est parti quand la police est arrivée, en tentant de prendre les enfants qu'il voulait amener à une, entre guillemets, soirée. À l'époque, elle avait 3 ans et le flic lui demande comment elle peut s'en souvenir, si sa mère ne lui a pas raconté cette histoire. Mais la petite est très claire et elle dit je m'en rappelle. Et elle répète, je m'en rappelle. Audition du petit garçon. Là aussi, le flic passe beaucoup de temps à faire parler l'enfant de sa mère et de son beau-père, mais à part la consommation de cannabis, l'enfant ne raconte rien de bien intéressant pour lui. Il explique que leur père a vite été en contact avec les enseignants de leur école via leur enseignante, Madame Wilmer. Tous les enseignants de l'école le connaissent et ils racontent que des viols avaient lieu, notamment dans les toilettes, à la piscine, avec leur père, plusieurs enseignants et parents d'élèves, les parents de ses amis, qui leur mettent des godemichés dans les fesses et il dit qu'il a saigné à cause de cela. Il dit qu'une dizaine d'enseignants sur les 30 à l'école étaient présents. Il dit que son père a des photos de lui et sa sœur nue dans son ordinateur. Il répète que son père a tué des bébés, qu'il l'a obligé à faire pareil en lui donnant un couteau, en lui tenant la main. Alors que leur mère les éduque à manger des légumes, il dit que leur père ne les amène que dans les fast-foods où ils n'aiment pas la junk food, entre guillemets. Donc les enfants n'aiment pas la junk food. Il leur donne aussi de l'alcool et de la poudre blanche à sniffer, et le gamin raconte l'effet de l'alcool et de la poudre sur lui. Donc évidemment, la poudre blanche à sniffer, c'est de la cocaïne. Audition du 17 septembre. C'est là où on arrive sur les pseudo-rétractations. Donc vous imaginez comment le truc se déroule quand même. Entre le 5, le 11, on voit que les attitudes des flics changent. Donc en fait, c'est juste, ils ont des stratégies, voilà, pour arriver à faire en sorte de tirer ce qu'ils veulent des enfants et pour arriver à la fin à garder uniquement ce qu'ils veulent, alors que les gamins sont des gamins, mais hallucinants, parce qu'ils répètent de manière circonstanciée, précise, répétée, malgré les abus, malgré la drogue, malgré les pressions, malgré tout, dans toutes les interviews, dans toutes les auditions et même les interviews qu'on peut y avoir, que la mère a faites, etc., ils répètent de manière hyper précise tout ce qu'ils ont vécu. C'est absolument irréfutable. Donc, on reprend. Audition du 17 septembre. Les deux enfants ont été amenés au commissariat par la police, venus les chercher en voiture. À ce moment, ils étaient dans un foyer. Au cours de ces auditions, donc, il y a surtout la fille qui parle, mais aussi le garçon, ils reviennent sur la quasi-totalité de leurs accusations contre leur père. Ils racontent notamment qu'elle ne fréquente plus une de ses copines, Sophie, parce qu'elle touchait les parties intimes, lui disant de faire pareil et la maltraitait. De manière surprenante, elle explique que leur père ne les a jamais touchées et qu'il ne s'est rien passé, ni à l'église, ni à la piscine. Et elle dit qu'en fait, c'est Abraham, le copain de leur mère, qui l'a poussée à dire ça. Elle dit que leur père n'a jamais rencontré le personnel de l'école. Elle dit qu'elle n'a jamais été chez Madame Holdings, alors qu'elle a décrit précisément sa maison auparavant, l'adresse, l'intérieur, le mobilier, les pièces. Elle dit que c'est elle qui a manipulé son frère en lui disant des choses fausses qu'il a répétées. En gros, elle aurait manipulé sa mère, son compagnon, son frère qui aurait cru ses mensonges. Trop forte la gamine, 9 ans. Elle explique qu'Abraham se prend pour son père, disant qu'il les aurait sauvés de leur vrai père. Alors juste quand même, parenthèse sur ces accusations comment dire, de manipulation et de faux témoignages des enfants. Il y a des études qui ont été faites, moins de 2% des enfants mentent, et dans ces 2%, la plupart des cas, c'est le papa qui manipule les enfants. D'accord? Donc ça, c'est des études qui ont été faites. J'ai pas la source là tout de suite, mais vous les retrouverez sur le site Wanted Pédo, notamment dans un article qui s'appelle Syndrome des faux souvenirs. Et moi, je veux bien, il arrive de temps en temps qu'une adolescente, donc entre 15, on va dire, et 18 ans, invente des choses en disant qu'elle s'est fait enlever, etc., ou alors qu'elle est, comment dire, une passion amoureuse pour un professeur, ou qu'il y ait des histoires qui puissent être inventées par une adolescente. Ça arrive. Peu, très peu, mais ça arrive. Et dans quasiment 100% des cas, cette gamine, vous la prenez entre quatre yeux, entre deux commissaires, ça ne tient pas. Rien n'est circonstancié, elle est très vague, elle est très élusive, elle est très émotionnelle, et en deux temps, trois mouvements, tout le monde s'en rend bien compte qu'elle dit n'importe quoi. C'est juste une adolescente, hein? C'est pas une adulte qui est capable de monter tout un bateau hyper, hyper bien ficelé, ok? Et ça se voit, d'accord? Là, on parle d'une enfant de 9 ans qui aurait été capable de répéter de manière hyper circonstanciée tout en se trompant sur rien et soi-disant, ah non, en fait, elle a tout inventé. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Inventer ça? Inventer des bébés qu'on tue? Non mais oh, je veux même pas croire comment un policier ou un juge peut croire ça. C'est une farce. C'est une triste farce. Bon, reprenons. Donc elle explique qu'Abraham se prend pour son père, disant qu'elle les aurait sauvés de leur vrai père. Après qu'il ait raconté un film de Zorro qu'ils ont vu, le flic conclut qu'elle a mélangé le rôle du méchant avec son père et que c'est le méchant du film qui tuait des bébés et pas son père. Alors, je veux bien. Enfin, là, on rêve, on est encore dans une autre parenthèse. C'est pour ça qu'ils font exprès d'hypersexualiser les enfants et qu'on va faire en sorte que, si possible, donner des téléphones portables aux enfants dès le primaire, dans la cour d'école, pour que tout le monde voit du pédo, du porno, pardon. Si tous les enfants ont une fois vu du porno, et aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que moi personnellement, voilà, j'ai une quarantaine d'années, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, mais je veux dire, le porno, on voyait ça au lycée, quoi. On voyait ça au moment où ça commençait à nous émoustiller les hormones. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus au collège. Et il faut absolument pas que ça descende au primaire, qu'il n'y ait pas de téléphone portable au primaire, d'accord? Parce que des parents un peu chelous, c'est pas compliqué, hein, de montrer au gamin, ou de montrer sans montrer, et puis qu'après le gamin dans la cour d'école le montre à ses autres. Parce qu'une fois qu'on a ça, mais c'est tellement facile de dire, mais votre enfant, il a déjà vu du porno, il nous l'a dit, donc en fait il mélange tout entre la réalité et la fiction, tu sais, parce que les gamins ils voient pas la différence entre un écran et puis un pénis dans leur anus, bien sûr que non, bien sûr, hein, ils voient pas la différence entre la réalité et l'écran, mon cul, ouais. Et au final, c'est ça l'argument qu'on va sortir, tu sais, c'est voyez, en fait. Il a pu tout inventer puisqu'il sait ce que c'est. Parce que nous, l'argument qu'on a, c'est évidemment, c'est un enfant de 9 ans ne peut pas inventer ces choses-là. D'accord? Il a jamais vu un godemiché. Là, on parle de zizi en plastique. À quel moment tu vois un godemiché quand t'as 7, 8, 9 ans? D'accord? Si tu en as déjà vu un, c'est qu'il y a un problème. Et il faut chercher le problème. Donc bref, voyez toujours ce truc avarié de comment montrer aux enfants de plus en plus jeunes des choses violentes, si possible sexuelles, pour qu'après, ça puisse se retourner contre eux dans les procès, s'il arrive des choses et qu'il raconte les choses. Passons. Donc, soi-disant, c'est dans le masque de Rose de Zorro. J'ai pas vu le film, mais je suis pas sûr que dans le masque de Rose de Zorro, il y a des bébés qui se fassent égorger. À ma connaissance, c'était un film grand public et même pas un film d'horreur, donc ça me paraît totalement le délire. Continuons. Un peu plus tard, dans l'entretien, elle dit qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère. Entendu à son tour, le garçon dit aussi qu'Abraham l'a poussé à dire des mensonges à propos de leur père. Mais il déclare qu'il a dit la vérité sur la crèche, les bébés tués par son père, même s'il n'y en a pas eu autant qu'il le dit. Puis le flic lui redemande s'il y a eu des bébés tués. Et là, finalement, le garçon, il dit que non. Ce serait Abraham qui l'aurait obligé à mentir. Quant aux pièces secrètes qu'il a décrites dans la maison de son père, il y en aurait, mais pas tellement. Dans l'église, il dit d'abord qu'il y avait des pièces secrètes, puis dit que non, et qu'Abraham l'a forcé à dire qu'il y en avait. Abraham l'aurait accusé d'avoir tué des bébés et lui aurait demandé ce qu'il faisait ensuite avec les os, alors il a inventé. Il déclare qu'il n'est jamais allé chez Madame Hollings parce qu'elle est enseignante de sa sœur et pas la sienne, et que si il dit que son père y réside désormais. Mais il dit que son père réside désormais chez Madame Hollings. Contrairement à sa sœur, il maintient que son père et Madame Hollings sont des amis très très proches. Alors juste quand même, remettons-nous dans un monde normal. Dans une enquête normale, dans un monde normal avec des policiers normaux, des enfants disent ça, c'est quand même pas compliqué d'avoir un mandat de perquisition et d'aller dans cette église, chez ce monsieur, et d'aller vérifier s'il y a effectivement des pièces secrètes. Qu'elles aient été nettoyées ou pas, ok, mais des caves, ça se détruit pas comme ça. Ça se voit, hein, ça se comble pas en 2 secondes, et s'il y a des travaux de fait, ça se voit. Donc il suffit d'y aller rapidement, c'est quand même pas très compliqué, hein. Bon, allez, on passe. Il ajoute que les bâtons en plastique dans les fesses, c'était vrai. Donc là, on voit bien, en fait, comme c'est la grande, ils ont complètement tourné le cerveau de la grande, qui mène le truc, qu'ils ont essayé de briefer comme ils pouvaient le petit, mais le petit, il a plus de mal, c'est le deuxième, et il n'arrive pas à tenir les mensonges qu'on lui demande de dire, quoi. Donc, mais le flic, lui, il est briefé aussi, donc ça va, il va prendre la part des choses qui lui convient. Puis le flic lui rappelle qu'il ne doit pas mentir, lui fait comprendre que sa sœur a dit autre chose. Et que lui, il dit avoir menti sur cela. Vous voyez? Donc en fait, le flic, il est briefé, il n'y a pas de souci, il est dans la team. Ce serait encore Abraham qui l'aurait amené à dire ça et à force de le frapper. Le flic lui dit bien que s'il a menti avant, ce n'est pas grave, mais maintenant, faut dire la vérité. Je cite, le flic lui demande, est-ce que ton père t'a déjà fait quelque chose que tu n'aimes pas? Et le gamin dit non. Il ne t'a jamais fait mal et ne t'a jamais rien mis dans ton derrière? Non, il est vraiment sympa. Alors Vous voyez la vidéo, je veux dire, la différence d'expression des gamins entre ces moments-là et les moments d'avant où ils sont complètement dans je me livre, je me soulage d'un poids, je pleure, c'est terrible, il y a des émotions de ouf, j'ai des signes évidents de stress post-traumatique, etc. Et ce moment-là où ils ont des réponses où c'est un mot et voilà, limite ils baissent la tête, enfin, c'est tellement évident. Continuons. et de préciser que la semaine dernière, pour la première fois, ils sont allés faire les magasins avec lui et qu'il leur a donné 10 livres sterling. Ah bah c'est génial, tout a changé, alors s'il leur donne 10 livres sterling qu'ils vont au magasin. Le flic lui demande s'il aime Abraham, et le gamin répond qu'il le déteste. Il dit que maintenant, plus personne ne les embrasse ni ne les touche, et il sait que c'est interdit. Le flic lui rappelle qu'il a été chez le docteur et lui demande ce qu'il a trouvé. Il cite, il répond « Des ecchymoses au derrière ?»« Et comment tu les as eues ?» demande le flic. Et le gamin dit « Je n'en sais rien. » Non mais, c'est hallucinant. On constate dans ces dernières auditions qu'il y a de nombreuses hésitations, surtout de la part du garçon, et même des contradictions. Par exemple, une fois, il dit qu'on lui a mis des bâtons en plastique dans les fesses avant de se rétracter. Idem pour les pièces secrètes. Le frère et la sœur se contredisent parfois, alors que c'était pas le cas dans leur déclaration précédente. Cependant, les rétractations de sa sœur ont un aspect plus crédible, elle est bien briefée, elle est droite, elle est plus grande, et elle arrive à bien raconter ce qu'on lui a demandé. Audition du père, cette fois, le 15 septembre. Il est reçu avec beaucoup de politesse, avec son avocate. Il s'est rendu de lui-même au commissariat, et on lui rappelle bien qu'il n'est pas en état d'arrestation. Il dit qu'il n'avait pas vu ses enfants pendant 2 ans jusqu'en mai 2014, alors que les faits se seraient produits à partir de 2013. En mai 2014, il les a revus en lieu médiatisé. Puis en juin, le tribunal a déclaré qu'il pouvait revoir ses enfants une fois toutes les 2 semaines pendant 4 heures d'abord, puis 7. Il raconte longuement les activités qu'ils ont fait ensemble lors de chaque rencontre, comme aller à la piscine, faire les magasins. Évidemment, il dit qu'il n'a jamais rien fait à ses enfants et que c'est leur mère qu'il qualifie de folle, qu'il leur met des choses dans la tête et cherche à les éloigner de lui. Il dit qu'il a vu son ex, la mère des enfants, sur un site porno. Ah bon, il faudrait déjà le prouver. Elle l'aura accusé à tort de harcèlement, suite à quoi les flics lui auraient seulement demandé de ne plus l'appeler. Mais à cause de cela, dit-il, il a fallu attendre encore 10 mois pour revoir ses enfants. Il dit qu'une fois, son fils est entré dans la chambre de sa mère et a vu un rapport sexuel avec son compagnon. Je cite, « Il dit plusieurs fois qu'il est un bon père, qu'il est un père fantastique même, qu'il a gagné toutes les procédures, toutes, chacune d'entre elles, et qu'il a été traité comme un criminel par les services sociaux. » Fin de citation. Donc, il nous fait encore les violons du père victime, la pauvre petite victime, et de la mère complètement folle, on est dans le patriarcat total. Je vous rappelle quand même que, selon les enfants, il est tout le temps à l'école. Donc c'est quand même pas très compliqué, par exemple, de revoir s'il n'a pas son téléphone portable sur lui à un moment donné. Peut-être qu'il est intelligent qu'il ne l'a pas pris, mais peut-être pas. Hein. Et à un moment donné, ces gens sont tellement dans l'impunité, et ils savent tellement qu'ils sont couverts. Bon, ben voilà, il y a des choses très matérielles, très simples, pour arriver à savoir ce qui s'est passé. On continue. Lors de cette audition, le père n'a été questionné que sur l'épisode de la piscine, et rien n'a été vérifié, hein, ce que je vous dis. Donc, aucune question sur les fêtes, aucune question sur l'église, aucune question sur l'école, question sur rien, ni ses connexions, donc connexions téléphoniques, ni son emploi du temps, ni ses disques durs. Et ce qu'il faut faire, c'est une perquisition hyper rapide sans qu'il soit au courant, tu vas saisir tous ses ordinateurs chez lui, t'as toutes les preuves. Ah ben non, hein, ça serait dommage, on risquerait de traumatiser les gens. Pourtant, on aurait pu l'interroger sur moult choses, comme ses liens avec un groupe dirigé par une sorte de gourou, une vietnamienne hyper riche et anticommuniste appelée Ching Hai. Il a fait une « retraite » entre guillemets de 2 jours dans le cadre de sa formation en décembre 2003 à San Jose en Californie. Ching Hai se situe dans une forme de bouddhisme et une disciple d'un certain Thakkar Singh aux mœurs dissolues et dont certains ont souligné les penchants satanistes. Hai a été l'un des grands soutiens de Clinton pendant le Monica Gate. Cette organisation... donc vous voyez le site web sur l'article, prône le véganisme et fait aussi dans le business, autant dans le business que dans la charité à travers le monde, en visant les enfants et les catastrophes naturelles dans les pays pauvres notamment. Ah bah oui, formidable, on va dire. Aider les pauvres petits-enfants vulnérables, mais oui, et puis faire des orphelinats au Cambodge. Je vous renvoie au podcast sur le réseau Triangle, ou sur l'affaire du juge Broali, un grand classique. Tenez-vous bien, le père... En plus d'avoir eu tout loisir d'être gentiment pas cuisiné du tout par les flics, va avoir une interview à la BBC. En avril 2015, le père a été interviewé par la BBC au sujet de l'affaire. Je vous conseille de voir cette interview, c'est évident, il y a juste marqué coupable sur son front, quoi. Il a pu expliquer à quel point les accusations contre lui étaient horribles. Ses enfants l'accusaient d'être à la tête d'un réseau satanique, d'avoir tué des bébés dont il buvait le sang et de les avoir violés. Histoire d'appuyer son propos et d'émouvoir le public, il a même pleuré. Oh, il a pleuré. Il donne exactement la même version que ses enfants lors de leur rétractation et accuse le copain de la mère d'avoir amené les enfants, sous la menace de coups, à dire n'importe quoi. Ah, bah oui. Pourtant, lors de son audition à la police, il a assuré que c'est la mère qui faisait pression sur les enfants et non pas le beau-père. Ce qui a l'air de l'embêter le plus, c'est que les propos des enfants ont été diffusés sur le net et que des dizaines de milliers de personnes ont vu ces vidéos. 4 millions de personnes, paraît-il. Ah bah oui, ça pour la réputation, vraiment le pervers narcissique total, quoi. Le mec, ses enfants ont des certificats médicaux comme quoi ils se sont fait défoncer l'anus. Il en a rien à foutre. Oh, mes enfants étaient violés? Bah, bon, bah, non, mais en fait, c'est quand même triste, hein, mes enfants, ils disent des choses horribles sur moi, sur Internet. Mec, zéro empathie, quoi. Complètement cinglé, quoi. Allez, passons. Dans un élan de charité, il se dit triste pour la mère, qui ne fera plus partie de leur vie. Ah oui, vraiment. Il nie au passage toute violence conjugale ou familiale, à part deux ou trois fois où il admet avoir un peu secoué son ex, mais c'est parce qu'elle a été méchante avec lui. Non mais, on est dans la cour d'école, alors que ces faits sont avérés par des rapports de police. Il aurait difficilement pu le nier, puisqu'il a été condamné pour cela en 2010. La journaliste, entre guillemets, se permet même de dire « On sait maintenant que toutes les accusations sont complètement manipulées. » Non mais c'est plus c'est gros, plus ça passe. La nuance dans le journalisme, oui, bah, pas tout le temps, hein. Et de souligner que les vidéos vont nuire aux enfants. Alors ça, c'est le truc qu'on a tout le temps. Nous aussi, à Wanted Pédo, on fait un article sur les enfants, même en anonymisant les prénoms des enfants. Forcément, on va quand même parler de la maman protectrice, ce qui est souvent le cas. Et on va dire bah, dans quelle ville, éventuellement son nom, pour que les gens puissent la joindre, un contact, pour que les gens puissent l'aider si elles le veulent. Et là, le dernier argument des services sociaux, c'est de dire ça. Ah non, mais vous exposez les enfants à des menaces, parce que sur Internet, il peut y avoir n'importe qui. Là, on parle d'enfants qui se sont fait violer par leur père. Mais les services sociaux, eux, ils se soucient de la e-réputation des gosses. Non mais, bref, passons. À ce sujet, il est clair que ne pas avoir flouté les visages des enfants a été une erreur. Donc effectivement, pour des gens qui voudraient agir dans le sens des enfants, il vaut mieux flouter le visage des enfants et anonymiser les noms dans les articles, les prénoms des enfants dans les articles et leurs noms. Souvent d'ailleurs, ça peut arriver que les enfants portent le nom du père. Donc donner le patronyme de la mère n'est pas un problème, puisqu'en fait ils n'ont pas le même patronyme. Sauf pour des gens locaux qui connaissent, mais sinon on ne retrouve pas. On a le même problème dans l'affaire Amy de Lisa, où certains ont été diffusés des vidéos non floutées des enfants en donnant leur prénom. Donc effectivement, voilà, les parents, ils filment, et puis à un moment donné, ils savent pas faire, ils savent pas forcément faire des montages. Flouter les enfants de visage sur une vidéo, c'est pas un truc qui est facile à faire, hein. C'est du image par image, ou des choses un peu plus techniques. Tout le monde ne sait pas faire ça, ou alors faut payer quelqu'un pour le faire. Enfin voilà, les mamans, elles réagissent, elles postent ça sur Facebook, c'est l'époque, quoi. Voilà, mais effectivement, ça serait mieux. Le père des enfants s'est fait une joie de les diffuser auprès de leurs copains d'école, si bien qu'ils n'ont plus qu'une porte de sortie, nier les faits et s'en prendre à leur mère. Ah oui, c'est un problème de les diffuser sur Internet, mais lui, par contre, il se prive pas de les diffuser à tout le monde au sein de l'école et aux autres parents. Mais vu les circonstances, on peut comprendre que la mère n'ait pas vu d'autre solution pour les protéger, comme je vous le disais. D'ailleurs, dans les deux cas, la justice, entre guillemets, a aussi sauté sur l'occasion pour incriminer les mères d'avoir fait cela, comme si c'était pire que ce que dénonçaient les enfants. Voilà ce que je vous disais. Absence d'enquête. Au final, aucune des personnes accusées par les enfants n'a été arrêtée, et encore moins jugée. Et d'ailleurs, j'ai pas les détails, je me demande bien qui a été auditionné, à part le père. J'aimerais bien savoir si le personnel de l'école, les autres parents d'élèves, ont été auditionnés, et qu'on puisse au moins recouper un petit peu leur dire. À part ça, leur père, aucun n'a même été entendu. Ah oui, c'est ça. Et à part leur père, aucun n'a même été entendu par les flics. De plus, l'audition du paternel a été des plus softs, et en réalité, les flics l'ont laissé raconter ce qu'ils voulaient. C'était même pas un interrogatoire. Ils ont même pas essayé de le coincer. Aucun des autres enfants, cités par la fille et son frère, n'a été entendu. Aucun des autres enfants de l'école. Et finalement, la justice a simplement décidé de ne pas tenir compte de leur témoignage, des enfants, pourtant consistants. La juge n'a pas non plus tenu compte d'un certificat médical du docteur Hodes, qui constate un réflexe de dilatation anale prolongée est lié à des viols anaux, ainsi que des cicatrices anales repérées chez deux enfants. Donc les enfants sont médicalement violés, et tout le monde se fiche de savoir qui l'a fait. Extraordinaire. Mais comme ce réflexe arriverait aussi à des enfants qui n'ont pas été violés, bon, c'est superbe, le juge a écarté ce certificat. Ah oui, ça c'est les fameux juges psychologues, experts en pédopsychiatrie, les fameux juges qui sont capables, qui ont toutes les compétences. Un médecin a aussi diagnostiqué chez les deux enfants des syndromes de stress post-traumatique. Les enfants ont aussi parlé des abus commis par leur père et à l'école à ces médecins. Des tests ont été effectués à partir des cheveux des enfants, mais comme on y a certainement trouvé les traces de multiples drogues, eh bien les résultats n'ont pas été communiqués à leur mère, qui ne peut donc pas les utiliser pour sa défense. Donc là, complètement à côté de la loi. C'est illégal. Car bien sûr, elle est accusée d'avoir obligé les enfants à mentir au sujet de leur père. Lui est passé pour la victime et a été traité comme tel par la justice. Suite aux rétractations du 17 septembre, la police a cessé son enquête. Aucune perquisition et aucune saisie n'ont été effectuées. Aucun des lieux cités par les enfants n'a été passé au peigne fin, histoire de retrouver des traces ou des preuves. Donc on est vraiment dans la version accusatoire. À la limite, s'ils avaient retrouvé de la cocaïne dans les cheveux des enfants, ils auraient dit que c'était la mère qui leur avait donné, quoi. C'est quand même extraordinaire. En novembre 2014, les deux enfants ont été placés dans une famille d'accueil à qui ils ont répété leurs accusations et évoqué le quotidien qu'ils vivaient. C'est la mère qui a été accusée d'avoir rentré toutes ces horreurs dans la tête des enfants. Et l'affaire est traitée comme une banale cas de négligence parentale, de la part de la mère évidemment. Donc là, on est complètement dans ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, ce faux syndrome qu'on va mettre sur les mères pour faire croire que c'est elles qui ont fait en sorte de manipuler leurs enfants pour qu'ils inventent des viols de la part du père. Extraordinaire. Ça paraît effectivement. Non mais imaginez, c'est tellement absurde quoi. Vous vous séparez d'un mec et pour avoir l'autorité parentale complète et qu'il n'ait pas la garde, vous allez monter un bateau énorme. Complètement pas circonstancié, machin et tout machin, pour qu'il ait pas la garde. Mais enfin, mais faut être stupide. Mais personne ne fait ça. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est comment cette théorie peut être ne serait-ce que crédible? Bon, passons. À partir de ce moment-là, tout contact entre les enfants et leur mère, ainsi que leur famille maternelle, a été coupé, et les droits parentaux de la mère ont été supprimés. Si bien qu'elle n'a plus d'informations sur leur santé ou leur scolarité, et n'a plus son mot à dire sur rien. Donc en gros, elle a l'autorité parentale, mais ça se limite à zéro. Depuis 2015, plusieurs sites ont commencé à fleurir, disant que toute l'affaire était un hoax. Ah oui, était une intox, une fake news, bien sûr. C'est à ce moment, une femme, Sabi McNeil, a publié des documents judiciaires sans l'accord de la mère, selon cette dernière, si bien qu'en février 2015, une dizaine de flics tentent de l'arrêter à son domicile, mais elle parvient à s'enfuir. Donc là, quelqu'un, peut-être qui voulait aider la mère, publie des documents judiciaires, donc secret de l'instruction, et ça permet d'accuser la mère et peut-être de l'arrêter pour avoir violé le secret de l'instruction, instruction qui n'existe même pas, puisque l'enquête est terminée et close. Non mais on hallucine. En mars 2015, un tribunal a décrété que les propos des enfants étaient sans fondement et qu'ils avaient carrément été torturés par leur mère et son compagnon pour les forcer à faire de fausses accusations. Apparemment, des traces de cannabis ont été retrouvées chez les deux enfants. Abraham se faisait appeler Papa Hemp, Papa Herbe. Rien sur d'éventuelles traces de cocaïne, par contre. Non mais attends. En juillet 2015, alors que la petite fille, elle a les cheveux, ils font 40 cm, hein. Donc à 1 cm par mois, il y a de quoi retrouver de la cocaïne sur plusieurs années. En juillet 2015, la mère a tenté de rouvrir l'enquête sur les abus et de récupérer les enfants, en vain. Le mois suivant, le père obtient la garde exclusive des enfants, qui doit être effective dans les 12 mois suivants. En novembre 2016, une association assez sulfureuse, l'IPCC de Kevin Annett, écrit à la mère que l'enquête de police n'a pas été menée sérieusement. Bon, après, ça, c'est le milieu des soi-disant associations de protection de l'enfance dans les anglo-saxonnes. C'est un peu comme chez nous. Il y a du leurre, hein, de tout. Il y a à boire et à manger. Et il y a aussi des faux-nés. Plus récemment, fin août 2017, un blogueur américain a été envoyé en prison pour 9 mois lors d'un passage à Londres pour avoir harcelé des personnes dénoncées comme étant liées à l'affaire. D'après l'avocate de plusieurs familles incriminées, l'objectif est de réduire au silence toute personne qui s'en prendrait à ces innocents, entre guillemets. Et divers blogs satanistes ou assimilés de relayer la nouvelle et de s'en réjouir. Ah oui. D'ailleurs, il est assez étonnant de voir une espèce de communauté satanique et revendiquée comme telle défendre bec et ongles Richie Derman et ses acolytes. Et ils ne refont le même coup de la panique satanique des années 80, car c'est bien connu, dès que les braves gens parlent de satanisme, c'est qu'ils sont dans un délire le plus complet. On peut s'interroger, est-ce que le papa n'aurait pas activé tout son réseau de dingue pour l'aider à faire étouffer l'affaire? Alors effectivement, je vous renvoie à un podcast sur l'affaire des maternelles sataniques McMartin, où en fait ce modèle, déjà le business model des maternelles où on abuse des enfants et on fait des rites sataniques et où on gagne de l'argent à filmer tout ça et à le vendre et à prostituer les gosses, c'est un modèle qui a été décrit dans des dizaines de crèches et de maternelles aux États-Unis, qui a donné lieu à pas mal de choses au niveau des médias, qui a donné lieu à beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, et on a retourné le truc en disant que tout ça c'était de l'hystérie, que comme les jugements donnaient des classements sans suite, enfin certains, hein, parce qu'il y a aussi eu des condamnations dans d'autres affaires, mais que c'était une sorte de d'hystérie collective sur des délires sataniques. En fait, c'était la foule qui inventait ça, etc. Et on a exactement le même process avec les blogs, avec la police, avec l'intervention des médias mainstream pour retourner complètement l'affaire et, à l'image d'Outreau, faire passer les coupables pour des innocents. Et qu'à la fin, médiatiquement, eh ben, c'est le pauvre papa qui comprend pas pourquoi il est accusé de ci, de ça, alors que quand tu vois le profil psychologique du type, quand tu vois ses antécédents, voilà, il a vraiment rien d'un saint, quoi. Continuons. La suite. Comme on pouvait s'y entendre, le système s'est défendu contre cette attaque. On a vu se multiplier les prises de position en faveur du père sur les réseaux sociaux, notamment autour d'un site qui s'appelle Hoax Ted Research. Donc, nous, on a l'équivalent en France qui s'appelle Hoaxbuster, tenu par, je vous laisse aller voir un article sur le site, où on est allé voir un petit peu ces messieurs, le président de l'association, donc c'est censé être des antifas, on va dire, d'extrême gauche. Puis en fait, quand on creuse un peu, le site appartient à, le président de l'association, c'est Christian Lacaux, et ce monsieur, sur son site Facebook, il y a quoi? Je vous le donne en mille. Du satanisme. Ah, bah mince alors, quoi, c'est fou, hein? Personne ne cherche en fait, il suffit de se pencher pour ramasser les trucs, tout est là. Hein, les statues sont en préfecture, il suffit d'y aller. On est allé à son adresse, le mec a fait style qu'il était pas là alors qu'il y avait son chien, machin. Enfin bref, et que des flipettes. C'est hallucinant. N'importe quel journaliste en première année de journalisme, il fait les trois trucs de base et il trouve. Mais non, 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 nous on a un truc qui s'appelle Hoaxbuster. Non, comment, Debunker de Hoax. Et ça fait des années qu'ils font chier tout le monde et n'importe quoi, là. À l'image de nos amis pseudo-debunkers de fake news, Rudi Reichstadt, Tristan Mendès France et compagnie, et mes couilles sur le bureau. Donc vous pourrez aller voir ça sur un article du site internet. Donc, Hoaxbuster Research, dont le but est de dénoncer la mère et de nier toute réalité dans ce que les enfants ont rapporté. Les médias silencieux, au moment où les révélations des enfants ont été diffusées sur le net, ont tous pris position en faveur du père, dénonçant une mère qui a maltraité ses enfants et qui les a obligés à raconter les pires horreurs sur leur père. Cela dès les rétractations des enfants. Mais en face, de nombreux citoyens ont mené une charge contre les satanistes, responsables de l'étouffement de l'affaire, via plusieurs sites dédiés à l'affaire. Ceux-ci ont été repérés, de nombreux profils sur diverses plateformes comme YouTube, Twitter, appartenant au père et à ses amis et défenseurs, dont certains ne cachent pas du tout leur lien avec le satanisme. La mère des enfants se serait enfuie, probablement pour retourner en Russie, son pays d'origine, et la police la cherche pour l'arrêter. Effectivement, on se met à sa place. Je veux dire, elle a de quoi devenir complotiste gravement, quoi. Hein, vu tout ce qui s'est passé et que tout le monde s'est retourné contre elle, c'est quand même hallucinant. Une autre de ses amies, Sabine McNeil, est également recherchée pour harcèlement, parce qu'elle a évoqué l'affaire sur Internet et diffusé les témoignages des enfants, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Apparemment, il n'y a pas que la police à la rechercher. Un certain nombre de tarés satanistes sont sur son dos, comme un certain James Hind, qui a de nombreux pseudos, et dit sur son compte Twitter être le fondateur du site mysatan.net. Donc c'est le genre de site sataniste qui explique tout comment faire, mais évidemment, c'est que du folklore, hein, c'est que pour rigoler, hein, c'est juste des petits gothiques qui s'amusent. Voilà, se battant contre les chasseurs de satanistes. Ah oui, voilà, donc les satanistes sont opprimés, hein, les satanistes sont des victimes, bien sûr. Il tient un blog intitulé Satanic Views. En fait, en réaction aux anti-satanistes, des satanistes ou du moins se disant satanistes sont sortis du bois pour combattre tout propos pouvant nuire à l'image qu'ils tentent de se donner. L'image, attends, d'adorateur du diable? Et de la souffrance, ah oui, mais c'est des gentils. Ah oui, d'accord. Non, mais là, c'est la huitième dimension, là. Hélas, eux ont l'impunité pour eux et ne sont pas poursuivis pour harcèlement, atteinte à la vie privée ou autre, et peuvent continuer à raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, le net est un champ de bataille autour de cette affaire. La guerre fait rage sur le net au sujet de cette affaire. Des dizaines de sites soutenant la réalité des accusations ont été mis en ligne et face à eux, à ceux qui nient, les satanistes et les médias alignés, qui disent haut et fort qu'il n'y a rien du tout dans cette affaire. Pour les forces de l'ordre et pour la justice, il semble que le simple fait de parler de cette affaire en défendant la première version des enfants soit déjà considéré comme étant du harcèlement. D'ailleurs, certains disent que les lois ne sont pas adaptées et qu'il faut mieux contrôler le net et pister les internautes pour éviter que d'innocentes familles ne soient injustement attaquées. Donc là, on va renvoyer à ce qui se passe en France, des lois contre la haine sur Internet, contre le complotisme sur Internet, etc., etc. Et puis on amalgame le tout, comme ça les gens qui essayent de faire avancer la vérité, ils sont amalgamés avec les gens qui pensent que la Terre est plate et que tout le monde c'est des reptiliens. Super. Scotland Yard demande même aux citoyens de ne pas partager les infos liées à cette affaire. C'est quand même extraordinaire. La censure et même l'omerta. Donc, alors que l'affaire est grave et qu'un citoyen lambda qui a vu les dizaines de vidéos des enfants ne peut que s'interroger et chercher à y voir plus clair. Quant à Abraham, il s'est retrouvé poursuivi pour avoir agressé son propre fils adolescent. Bref, une telle histoire serait bien évidemment impossible en France, selon nos autorités. Bah ben non. Pourtant, on distingue un processus aussi connu que radical, qui consiste à placer les enfants dès qu'ils parlent afin de les faire taire. On coupe très vite tout lien avec le parent protecteur. Ce dernier se trouve poursuivi pour moult raisons, allant de la dénonciation calomnieuse à la non-représentation d'enfants, voire à l'enlèvement d'enfants quand on ne l'envoie pas directement en psychiatrie de manière forcée. Après quelques mois d'un tel traitement, rares sont les enfants qui continuent à dénoncer. En effet, ils comprennent que plus ils parlent, moins ils voient leurs parents protecteurs et plus ils sont confiés aux parents qui abusent d'eux. En Angleterre, cependant, ils pourront porter plainte toute leur vie pour tenter d'obtenir justice, puisque là-bas, il n'y a pas de prescription sur les abus sexuels sur mineurs.